Alors oui, pas de table ronde, néanmoins, ceux qui ne pourraient pas dormir ce soir parce qu'ils n'ont pas la réponse à la question « La trajectoire des industries électriques et gazières à Bordeaux, une exception en France ?» La réponse était non, hein, mais quand même, il y a une vraie spécificité. Voilà, vous dormirez mieux, je suis rassurée. Il se trouve que si vous aviez des questions...
En termes de comparaison, on a une spécialiste de Grenoble, et ça fait justement partie des cas un petit peu particuliers qui font qu'on n'a pas d'exception, mais plutôt de trajectoire singulière. Et pour des exemples plus européens, on a également un spécialiste qui pourrait nous parler de Bilbao. Alors, je vous laisse libre dans vos questions, mais néanmoins, voici quelques pistes qui pourraient peut-être vous intéresser. Les questions peuvent également bien sûr porter sur les deux présentations précédentes, hein, il n'y a absolument aucun problème. Et je fais passer le micro dès que possible, pour ceux qui le voudraient.
On vous a endormi ou on a été trop complet?
Juste une question par rapport à ce que vous avez dit sur le contrat sous l'Empire, je crois, de Napoléon III. Vous disiez que la mairie de Bordeaux s'est fait un peu avoir par rapport à un contrat qu'elle a signé. Alors je sais que Napoléon III était très libéral par rapport à son prédécesseur, l'Empire, mais est-ce qu'ils n'avaient quand même pas les moyens à l'époque, où c'était quand même pas si mondialisé que ça, de faire pression avec l'État pour rompre le contrat de manière totalement arbitraire et justement de ne pas se faire avoir pendant des années et perdre de l'argent avec ça?
Alors, c'est bien avant Napoléon III. C'est en 1839, ça a été signé, ça a commencé en 1842, donc on est encore pendant la restauration.
Non, la monarchie juive.
Oui, mais non, la monarchie juive, c'est...
Non,
c'est pas... Désolé, excusez-moi. J'ai oublié mes cours d'histoire de...
C'est bien, on peut vous critiquer une fois.
Et résultat, alors, quelle est la position de l'État là-dedans? Eh bien, justement, la préfecture, les représentants de l'État...
La préfecture, elle va pousser à maintenir le contrat. Parce que la priorité de la préfecture, c'est de garder l'éclairage public. Elle veut pouvoir contrôler l'espace public. Elle veut savoir qui se balade la nuit. Enfin, on n'a pas pu rentrer là-dedans, mais clairement, la nuit, c'est pas non seulement c'est pas on a peur des voleurs, des violeurs, c'est surtout tous ces dissidents qui en profitent pour se rencontrer et pour faire des actions. Donc résultat, pour la préfecture, il est hors de question que le gaz disparaisse. Donc résultat, elle dit à la mairie, arrangez-vous pour prolonger le contrat. Et c'est d'ailleurs la préfecture qui, quand elle voit le contrat de concession, elle doit le valider, qui pose des questions à la municipalité en disant, ah oui, vous avez fait un contrat quand même avec qui a été accepté avec une durée d'un an. Moi, nous, on se pose vraiment des questions, qu'est-ce qui va se passer au bout d'un an? Et donc c'est là que la mairie dit, bon, dans ce cas-là, on renouvellera, si c'est comme ça, et elle met des clauses de renouvellement en 1840.
Où est-ce qu'on peut retrouver votre...
On ne vous entend pas.
Où est-ce que vous pouvez trouver votre info sur l'histoire de la mairie? Alors moi, je n'ai pas présenté...
Je vais reparler dans le micro. Je n'ai pas soutenu ma thèse, j'espère la soutenir à la fin de l'année 2020. Mais comme j'ai quand même pas envie que tout pour le moment dorme sur mon disque dur... on a essayé de faire un travail de médiation scientifique, donc de vulgarisation, et durant l'été, un compte Twitter a été alimenté en juin et juillet sur toute l'histoire avant et pendant la régie, avec des cartes, des photos, un discours beaucoup plus complet. Donc si vous allez sur Twitter, même si vous n'avez pas de compte, vous pouvez accéder au contenu. C'est @higbx, histoire des industries électriques et gazières de Bordeaux. Et naturellement, je ne peux que recommander de en profiter pour suivre le compte de la chaire.
Merci Stéphanie. Peut-être juste un commentaire et une question sur la méthodologie d'un point de vue historique. Anne Dalmasso, vous soulignez le fait que lorsque vous avez fait votre thèse sur le groupement de production hydraulique, vous l'avez abordé sous en tant qu'histoire des organisations. J'ai l'impression, à écouter Rémi en duo avec Alexandre, que, en l'occurrence, la manière dont il travaille est à la fois histoire des organisations et histoire territorialisée. Enfin, ça m'intéresserait de vous entendre là-dessus. Peut-être, est-ce que c'est une nouvelle manière de travailler qui prend en compte plus de dimensions ?
Il y a deux éléments. D'une part, c'est vrai que la manière de faire de l'histoire est évolue et qu'il y a des thématiques qui émergent. Donc c'est une chose, mais c'est aussi lié à l'objet sur lequel on travaille. C'est-à-dire que moi, dans ma thèse, de toute façon, c'était un organe interne d'EDF qui, à la différence de la régie ou de toutes ces sociétés, n'avait pas de contact direct avec le public, avec ses consommateurs. Donc c'était forcément quelque chose qui fonctionnait en ligne directe avec EDF. Quand on travaille sur ces questions là d'énergie, de distribution, d'énergie de production, d'énergie au niveau municipal, donc cette histoire de ces régies, ces sociétés économiques, là on est forcément dans le territoire, parce que là on a des vrais acteurs territoriaux. Donc à Grenoble, on a donc une régie historique qui date de 1903, qui a été effectivement privatisée en 1986. Alors je ne sais pas si ça a à voir avec Thatcher et Reagan, mais quand même, elle a été privatisée par le maire de l'époque Alain Carignon dans le cadre d'une gigantesque affaire de corruption pour laquelle il a été condamné à 5 ans de prison. Voilà. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que voilà, derrière ces questions de territoire et de réseau, il y a des réseaux d'acteurs avec tout ce que ça peut apporter dans la capacité à construire, etc. Et puis, ces sociétés d'économie mixte, elles ont joué des rôles multiples, mais dont des rôles de circulation d'argent à différents niveaux. Et Carignon n'est pas le seul, s'est fait prendre plus.
Oui, pour compléter, en termes de volume financier, à partir de 1925, donc 6 ans après sa création, la régie a un budget supérieur à celui du conseil municipal. Donc c'est pour vous donner une idée, c'est un acteur économique majeur. Pour répondre à ta question, Cyril, personnellement, quand j'ai commencé ma thèse, je pensais plutôt avoir une approche, j'avais différents types de méthodologies, et par exemple, je pensais plutôt avoir une approche par l'histoire des acteurs. Cette approche systémique, en fait, je l'ai développée au fur et à mesure de mon objet d'étude, parce qu'elle m'a paru être beaucoup plus pertinente, et qu'au final, au niveau des acteurs, sur une bonne partie des périodes, je manque de sources, je manque d'accès pour pouvoir... on ne peut pas faire une histoire des acteurs en se concentrant uniquement sur Adrien Marquet, par exemple. Et Adrien Marquet a eu une influence sur la régie qui est majeure, et c'est son outil politique, c'est pas celui de sa majorité, c'est clairement celui du maire. Donc voilà, après effectivement je pense que heureusement que notre discipline évolue dans ces méthodes et essaye de nouvelles techniques et voit si ça marche ou pas.
Moi quand je suis parti, c'était l'histoire d'un fait social total, formule de Marcel Mauss, c'est-à-dire la première interrogation c'est l'électricité, et c'était à une époque où évidemment on l'utilisait moins, elle n'était pas reliée à la téléphonie comme aujourd'hui, mais malgré tout, elle était cœur de notre quotidienneté, c'était ça mon interrogation première, comment l'électricité est parvenue aux hommes et aux femmes. C'est ça que je t'ai posé comme question. Et évidemment, comme on ne peut pas, je supposais que c'était pas. Pour pouvoir le saisir, il fallait le saisir localement. Localement, il se trouve. Je n'ai pas travaillé sur la régie municipale de l'électricité, du gaz et de l'électricité de Bordeaux. Parce que c'est une régie, j'y ai travaillé parce que c'est Bordeaux, parce que je suis bordelais, je vais d'abord travailler parce que c'était mon territoire et ma ville. Et il se trouve que cette ville était, je le savais parce qu'évidemment en tant que consommateur, mais il se trouve que cette ville en plus était très particulière, elle avait une histoire très particulière. Et là, ce qui permet de lier, selon une tripartition qui maintenant est passée de mode, l'économique, sociale, politique. D'où le titre, d'ailleurs, économie et politique.
Juste quelques commentaires rapides pour réinsérer et préparer dans le débat. On a l'arrivée, grâce au TGV qui a à peu près fonctionné, d'un autre spécialiste des territoires gaziers français et européens, dont je reposerai ensuite une question à Alexandre sur cet élargissement européen et ce cadre, y compris à Rémy sur le 19e siècle. C'est juste deux remarques, Alexandre, comme tu l'as souligné, ça a été souligné aussi, je pense, en creux, par Anne, la création des régies répondent à des circonstances exceptionnelles, ces circonstances exceptionnelles qui sont théorisées, modélisées, et je reviens sur la genèse de votre thèse, dans les bifurcations possibles, et dans le titre, donc le statut des ELD, par rapport, et en même temps, vous avez réintégré donc la dimension d'histoire des techniques, d'histoire économique, d'histoire des systèmes, et cet aspect des convertisseurs, en passant un peu moins directement par l'histoire des acteurs et des institutions. Donc juste ici, la remarque, au-delà de Bordeaux et de Grenoble, en élargissant, s'il y a un dernier élément dans les recherches présentées, c'est une performance par Rémy, je pense, par rapport à l'énorme travail qui avait été fait par Alexandre, le 19e siècle, vos trouvailles, vos recherches sur le 19e, sur le premier 19e siècle, me semblent tout à fait remarquables. Mais là, le spécialiste est aussi Jean-Pierre Ruillot. Donc, juste dans votre expérience, dans les comparaisons, vous-même l'avez faite, donc Bilbao, les comparaisons à l'échelle donc un peu européenne, dans cette question que... qu'est-ce que vous pourriez faire de façon pertinente? Bordeaux était toujours placé dès le 19e dans une comparaison internationale. Donc Alexandre, dans ton expérience, toi Anne, avec d'autres territoires européens, et Jean-Pierre, donc une petite comparaison européenne. Je suis un peu preneur de ces éléments.
Donc là, je vous mets une carte qui indique les ELD, les entreprises locales de distribution. Alors là, c'est les ELD d'énergie. Aujourd'hui en France, là c'est électricité et gaz, donc il y en a beaucoup, mais l'électricité il y en a 18, il n'y en a pas beaucoup. Et toutes ne sont pas en régie ou mixtes, elles sont juste locales. Pour répondre à votre question, sur la question de ce que j'ai découvert sur le 19e siècle, je suis très content de travailler à l'ère du numérique. Entre le début de ma thèse et aujourd'hui, en 2 ans, j'ai consulté 2 fois Gallica, le moteur de recherche de la Bibliothèque nationale de France. J'ai eu en 2 ans 4 fois plus d'occurrences qu'au début de ma thèse. Là, je l'ai fait il y a quelques mois, il y a eu beaucoup, beaucoup d'occurrences, notamment dans les revues de presse. Et c'est vrai qu'on peut comprendre des phénomènes, avoir des informations, être intéressé sur des pistes, trouver des merveilles grâce à la numérisation. Et ça, je pense que ça a fait gagner énormément de temps. Il y a des choses irréalisables sans ça. Sur la question de la comparaison, moi je me concentre beaucoup sur Bordeaux, je regarde ce qui se passe autour, mais je ferai dans ma thèse plus un focus sur faire une comparaison entre Bordeaux et Grenoble dans la période 86-2008. Donc en clair, tout ce qui va de la privatisation des régies jusqu'à l'ouverture complète de la concurrence. Parce qu'effectivement, là, on n'a pas développé, et on pourrait faire encore une communication d'1 heure sur ces 30 dernières années, mais il y a eu des changements très intéressants dans les marchés, à la fois au niveau national et européen, et au niveau local dans chacun des services.
Les comparaisons, j'en ai fait quelques-unes, notamment avec les villes espagnoles, enfin... Bon, à l'échelle européenne, vers la fin du 19e siècle, la question se pose d'abord pour le gaz, essentiellement, et l'eau. Enfin, l'électricité, par définition, ne se pose pas avant l'arrivée de l'électricité. Donc, ces gestions directes par les municipalités concernent essentiellement le gaz et l'eau, beaucoup plus rarement l'électricité, pour des raisons chronologiques, pour des raisons capitalistiques et techniques. Il se trouve que pour le gaz et l'eau, en Grande-Bretagne, je dis bien en Grande-Bretagne, c'est-à-dire en Angleterre et en Écosse aussi, en Allemagne, en Belgique, un certain nombre de villes ont choisi des formes de gestion publique directe ou via c'est le cas le plus fréquent en Allemagne, via une entreprise. contrat d'entreprise de ville, Stadtwerke, qui gère, administre un certain nombre de services entre la fin du 19e, la fin du 19e et le début du 20e. Tout à l'heure, on a évoqué effectivement cette mission envoyée dès les années 1870 pour voir ce qui se passait outre-Manche et en Allemagne. En France, ça ne se fait pas pour des raisons qui tiennent effectivement d'abord à la sorte de minorité juridique et financière des communes, au moins jusqu'au statut de 1884 et après le statut de 1884. Malgré le statut de 1884, les communes françaises, comme vous savez, sont un peu corsetées. Je ne parle même pas alors là des conseils généraux qui n'existent pas vraiment jusqu'en 1982. Et donc il n'y a pas les moyens ni juridiques ni financiers de le faire. Et puis de l'autre côté, comme je l'ai dit, idéologiquement, le Conseil d'État, les sénateurs, l'École libre des sciences politiques sont des libéraux doctrinaires de la plus belle espèce en France à la fin du 19e. Contrairement à ce qu'on peut penser, il y a beaucoup plus d'entreprises publiques en Grande-Bretagne, pays du libéralisme, qu'en France, qui est censé être le pays du colbertisme. Particulièrement dans l'économie des services, où les capitaux privés, le capitalisme privé, a été très bien servi en France, dans le gaz et l'électricité jusqu'en 1946, et dans l'eau, CQFD. Alors, évidemment, on peut dire qu'en Allemagne, il y a eu une sorte de répartition des tâches. Ça, c'est le, certains soutiennent ça, c'est-à-dire que là où on gagne rien, peu, ou là où même il s'agit de socialiser des pertes, entreprises publiques, là où au contraire on maximise les gains, c'est-à-dire non pas dans la distribution, non pas dans les services publics, mais dans, en amont, la production, ou en aval, les équipements, là on garde le capitalisme privé, particulièrement dans le capitalisme électrique. Capitalisme électrique allemand, dont vous savez qu'il est particulièrement puissant, hein, puisque c'est le seul qui a pu, à un moment donné, essayer d'entrer en concurrence avec le capitalisme électrique états-unien. Donc, mais l'économie de l'électricité, là, on a vu l'électricité comme service public, même si effectivement, essentiellement comme service, c'est à la fois une énergie et un service public. Vers la fin, justement, après 1945, c'est toujours un service public, mais c'est tellement une énergie que la logique locale devient compliquée à tenir, en fait. Hein. Enfin, ça, c'est, il faudrait des volumes pour expliquer ça. Alors que l'eau et le gaz ont une, jusqu'à au moins jusqu'à l'arrivée du gaz naturel, dans le cas du gaz, mais sans plus, une logique qui est profondément une logique locale et une logique de distribution d'un service à des usagers qui peuvent être des particuliers, essentiellement pour l'eau. Les industriels utilisent beaucoup d'eau. Les comparaisons, alors en Espagne, on a le même cas, c'est le même cas de figure, c'est-à-dire effectivement, c'est de la, le modèle de la concession déléguée, avec quelques exceptions, des exceptions basques, pour des raisons qui tiennent au fait que les basques, au Pays basque, les communes ont un statut fiscal, un statut particulier du Pays basque, encore aujourd'hui. Statut fiscal en particulier qui permet, ce sont des grandes communes, Bilbao, Saint-Sébastien, ce sont quand même des communes dynamiques, qui leur permet une marge de manœuvre comme Bordeaux, j'essaie d'expliquer tout à l'heure, hein, c'est-à-dire Bordeaux se trouve, j'avais essayé, mais bon, ça nous demanderait j'avais essayé de proposer la notion de optimum municipalisateur, c'est-à-dire que pour pouvoir municipaliser un service tel que ce que ça se fait à Bordeaux, il faut, il faut arriver à un optimum que toutes les villes de France n'ont pas. Parce qu'il y a d'autres villes, d'abord à Bordeaux, avant on se pose la question, on ne le fait pas. Ailleurs, parfois après on se pose la question, on ne le fait pas. Il faut véritablement qu'un certain nombre de conditions soient réunies. Excusez-moi de rester.
Non, à titre de comparaison, je ne vais pas lancer là-dedans, mais juste rappeler quand même les spécificités du cas suisse aussi, hein, sur ces rapports entre territoire et énergie, mais là, qui sont liés aussi au fonctionnement particulier de l'organisation administrative et surtout politique suisse. Et puis, juste pour rebondir sur cette question de la taille, il y a quand même quelque chose de très important, parce que la spécificité alors, du cas grenoblois, c'est justement sa toute petite taille. Grenoble, c'est tout petit, hein. Grenoble, milieu du 19e, c'est une quarantaine de milliers. On passe péniblement les 100 000 dans les années 40. Hein. Mais justement, la petite taille est aussi ce qui permet d'avoir des réseaux de décision qui sont courts, des alliances entre les élites locales qui sont parfois curieuses. C'est-à-dire que là, typiquement, le service municipal, puisque c'est un service municipal au départ de 1903, il est mis en place par des maires qui sont des maires industriels. Notre premier maire socialiste, c'est Mistral, c'est dans le monde 20, tout ça est déjà fait.
Il va aussi mis que pour le gaz, donc pas l'électricité, évidemment, c'est 1885. Ceux qui municipalisent, ce sont des industriels. C'est, en 1885, il n'y a pas de socialiste au conseil municipal, évidemment.
Il faut se méfier de ces adéquations municipalisation et socialisme. Non, quand on regarde sur le terrain, c'est pas ça. C'est comment je contrôle, encore une fois, les ressources dont j'ai besoin. Et c'est vrai que la région économique, c'est beaucoup plus petit. Moi, je regarde les chiffres. C'est 1200. Là, je regardais, aujourd'hui, ils sont 400. Encore 400, je ne suis pas sûre qu'ils y arrivent.
Ça correspond plus à la régale aujourd'hui.
On n'est pas du tout sur les mêmes échelles, mais il n'empêche que voilà, la montre est toujours là. Une société d'économie mixte et qui a eu un regain de dynamisme après la grande claque qu'ils se sont pris lorsqu'ils ont perdu le marché de l'éclairage public. Qui a été. Là, pour le coup, oui, en termes de représentation, etc., sur le territoire, on a été ressenti comme quelque chose d'assez incompréhensible. Sauf que d'une certaine manière, ça les a forcés à se réorienter et du coup à s'engager dans la production comme ils n'avaient jamais fait jusque-là.
Oui, et puis il y a un changement de direction au niveau de la municipalité aussi qui reste.
Ouais, mais alors là, pareil. Je ne suis pas sûre qu'on puisse en déduire les choses directement en terre, parce que c'est sous la municipalité Fiole, donc la municipalité écologiste, que la GEG a perdu son. Mais bon, dans le cadre d'un appel d'offres, etc. Donc les choses sont complexes.
Je vous remercie, je pense qu'on va arrêter ici les questions. Je vous remercie tous les trois pour vos interventions. Je suis désolée d'avoir dû écourter la table ronde. Et pour tout le monde, je vous donne rendez-vous à 16h30, mais il faudrait vraiment être là pour essayer de ne pas encore perdre plus de temps et finir du coup le plus tôt possible. Merci pour tous.
Merci, café, normalement.